Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'Asie centrale et plus particulièrement à l'Ouzbékistan, la plus peuplée des ex-républiques soviétiques de la région avec 32 millions d'habitants. La récente visite du président ouzbek aux États-Unis, un pas certain dans la volonté de Tachkent de redevenir un acteur diplomatique régional après des années d'isolement sur la scène internationale sous le régime de l'ex-président Islam Karimov, décédé en 2016 après presque 30 ans de règne. Avec cette visite, la question qui se pose évidemment aussi est celle d'un possible rapprochement entre Washington et Tachkent après la brouille de 2005 et la mise à la porte des États-Unis avec la fermeture de la base américaine stratégique pour Washington dans ce pays frontalier de l'Afghanistan. Regard et analyse avec nos invités Julien Torres, géographe chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l'Asie centrale. Bonjour.
Bonjour.
Ahmed Ramanov, consultant, membre de l'équipe Novastan Média francophone sur l'Asie centrale. Bonjour.
Bonjour.
Et Régis Janté, journaliste et correspondant de RFI dans le Caucase et en Asie centrale. Bonjour.
Bonjour à vous.
Après des décennies de politiques contradictoires, les États-Unis ont perdu de l'influence en Asie centrale. Washington et Tachkent sont-elles, en tant que capitale, en train de se rapprocher à nouveau? La question afghane a-t-elle une place dans ce rapprochement ou les États-Unis sont-ils tout simplement en train de profiter de l'ouverture tous azimuts de l'Ouzbékistan au bénéfice de l'action du président Mirziyoyev? L'ouverture de l'Ouzbékistan, une fenêtre pour Washington, tout cela à la fois, Julien Torres.
Alors je pense que la question essentielle aujourd'hui, c'est de se placer du point de vue de l'Ouzbékistan. Et en particulier, la question des relations entre l'Ouzbékistan et les États-Unis doit être vue comme étant le résultat d'une inflexion fondamentale de la politique étrangère de l'Ouzbékistan depuis un an et demi. Et ce mouvement d'ouverture permet donc aux États-Unis d'avoir de nouveau des relations avec l'Ouzbékistan, mais permet surtout à l'Ouzbékistan d'entretenir des relations avec l'ensemble de la communauté internationale et au premier rang desquels les pays de la région. Et je crois qu'il faut vraiment voir à toutes les échelles ces effets de la politique d'ouverture menée par Mirziyoyev. Et de ce point de vue, effectivement, il est possible que les États-Unis profitent, entre guillemets, de cette situation. Mais je pense que tous les acteurs internationaux peuvent potentiellement, entre guillemets, profiter de cette situation. Parce que c'est véritablement une initiative qui vient de l'État ouzbékistanais.
Ahmed Ramanov.
Tout d'abord, il faut rappeler que le mot ouzbek, ça veut dire c'est quelqu'un d'autonome. Donc les Ouzbeks et l'autonomie, ça va toujours de soi. Donc pour Mirziyoyev, les États-Unis, comme c'était pour le Karimov, c'est une alternative politique face à la Russie qui est toujours un poids écrasant. Et aussi, il y a des questions d'Afghanistan qui est toujours liée avec les États-Unis. Et bien sûr, il y a côté économique stratégique, toujours face à la Russie, mais de côté des États-Unis. Ça veut dire les États-Unis ils essaient toujours de garder des bonnes relations avec les pays d'Asie centrale, justement pour amoindrir l'influence de la Russie dans la région. Donc, toute cette situation fait que Mirziyoyev, essaie d'améliorer ses relations avec les États-Unis et surtout dans l'intérieur du pays. C'est une image pour Mirziyoyev, une image très positive de se rendre à Washington, de rencontrer avec les leaders mondiaux pour la population qui n'a pas eu une visite ouzbek officielle, soit en Europe, soit des États-Unis depuis des années, pendant l'ère Karimov, parce qu'à la fin de son présidentiel, Karimov était un peu trop isolé. Donc pour image, c'est très important aussi.
Régis Janté, vous partagez ce qui s'est dit jusqu'à présent.
Absolument, il faut regarder effectivement du point de vue ouzbek. Et la question de l'isolement est absolument capitale, puisque Karimov, qui était un dictateur, qui avait peur de l'extérieur, de l'influence extérieure. Alors à la fois, il menait une politique multivectorielle. En ce sens, c'est pas véritablement une inflexion fondamentale, puisqu'il a toujours essayé de contrebalancer la Russie par les États-Unis et vice-versa. Donc avec des effets de balancier assez violents souvent, qui se faisaient au détriment. Mais malgré tout, ça restait une politique quand même très très isolé. Et la conférence qu'il y a eu sur l'Afghanistan, dans le cadre du processus de Kaboul, fin mars, était vraiment signé le retour de l'Ouzbékistan dans la politique et la géopolitique régionale. Et la visite à Washington vient sceller en quelque sorte ce mouvement.
Et l'Afghanistan qui est une clé de sécurité pour l'Ouzbékistan, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Je voudrais juste à nouveau, Ahmed Ramanov, voir avec vous quel bilan de la visite du président ouzbek aux États-Unis on peut faire aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui a été décidé, pas décidé?
Donc pour la visite Mirziyoyev aux États-Unis, c'est pour les États-Unis, c'est la question d'Afghan parce que c'est la capitale pour les États-Unis au niveau de sécurité. Donc les États-Unis cherchent avec l'Ouzbékistan toujours une coopération pour apaiser l'Afghanistan, pour trouver une solution parce qu'on est toujours dans une impasse en Afghanistan. Alors que pour Mirziyoyev, comme je dis, c'est son image personnelle comme président et plus des coopérations économiques. C'est ce qu'il cherche Mirziyoyev maintenant. Ces visites, ils sont vraiment visées économiquement parce que politique, il est conscient de sa situation, de situation de l'Ouzbékistan, mais il est sûrement encore plus conscient de la situation économique dans le pays que pendant l'ère Karimov, qui était vraiment devenu un secteur presque en crise. Donc, ce qu'il cherche Mirziyoyev, c'est de faire des contrats. Donc, ce qu'il a été fait, ce qu'il a été annoncé, après, il faut toujours vérifier en détail. Donc, apparemment, les pré-contrats, on peut dire, des mémorandums qui ont été signés, ça monte jusqu'à 4 milliards de dollars. C'est surtout avec les machineries des États-Unis, avec les compagnies comme John Deere, Case, etc.
Les machineries agricoles.
Tout à fait, les machineries agricoles. Alors que l'Ouzbékistan, c'est un pays, il faut se rappeler, c'est un pays très agricole. Presque 70% de la population vivent dans les zones rurales. Et quand on dit des zones rurales, c'est vraiment des villages. Et alors que des centres-villes, ils peuvent se ressembler à une ville, mais c'est vraiment aussi, ils vivent aussi dans l'agriculture. Donc pour la politique Mirziyoyev, l'agriculture, c'est un secteur capital à développer parce que c'est beaucoup de population qui occupe dans ce secteur, alors que Shavkat Mirziyoyev, il est aussi issu d'un milieu agricole, on peut dire. Il est diplômé comme un spécialiste dans l'irrigation. Et en plus, il a été gouverneur dans les régions agricoles. Et quand il était premier ministre pendant l'ère Karimov, il était toujours de facto responsable du secteur agricole. C'était pas officiel, mais on savait que c'était lui qui vraiment appuyait sur ce secteur.
Alors, parmi les réformes, Julien Thérouez, il y a cette volonté donc de sortir de la monoculture du coton, très présente en Ouzbékistan. Le président Mirziyoyev, donc élu en décembre 2016, a entrepris des réformes tous azimuts. C'est important peut-être qu'on se pose un peu sur les clés et les secteurs particulièrement concernés. La question qui se pose, c'est... est-ce qu'il est sincère dans sa volonté de réforme? On peut rappeler qu'il a été Premier ministre de Karimov pendant plus de 10 ans, que c'est donc un pur produit du système Karimov et complice aussi d'un certain nombre d'abus. Julien Thérouez.
Alors ce qui est certain, c'est que les réformes qui sont menées sont tout à fait fondamentales. Du point de vue alors de la politique étrangère, on en a déjà un peu parlé, mais ça se traduit concrètement par l'ouverture des frontières avec les pays voisins et un apaisement considérable des relations avec le Tadjikistan, avec le Kyrgyzstan, là où il y avait une véritable hostilité, en fait.
C'est du bon voisinage, c'est ça
le... C'est même peut-être plus que du bon voisinage, puisqu'il y a maintenant des programmes de coopération, et par exemple sur la question des barrages situés au Tadjikistan qui sont en construction, là où l'Ouzbékistan avait une position très hostile, il y a maintenant des projets de partenariat sur ces mêmes barrages. Donc on a véritablement là une inflexion, pour le coup, je crois, très importante. Et l'ouverture des frontières, ça a une conséquence sur la vie quotidienne des gens aussi. Hein. Je veux dire, il y a un sentiment de liberté maintenant dans la population de l'Ouzbékistan qui n'existait pas auparavant et donc qui a des incidences aussi politiques sur la popularité du président et les réformes. Après, au niveau économique, il y a des choses tout à fait essentielles comme le fait que... il n'y a désormais une convertibilité du soum et qu'il n'y a plus comme auparavant le cours au marché noir et le cours officiel, ce qui veut dire aussi que ces réformes se sont accompagnées de la mise à l'écart de toute une série de pans de groupes politico-économique qui était lié au régime, qui détenait par exemple plus ou moins ce commerce de l'argent. Mmh. Et par ailleurs, il y a des formes de libéralisation, je dirais, politique aussi. Et notamment, il y a eu la réforme du parquet, des services de sécurité, et le fait que toute une série de responsables de ces organes sous Karimov ont été mis à l'écart. Et là, on a véritablement quand même des changements qui sont perceptibles par la population quotidiennement et qui expliquent pourquoi aujourd'hui, pour répondre à la question initiale, j'en sais rien s'il est sincère ou pas, Mirziyoyev. Simplement, il engage des réformes qui sont considérables et qui sont largement irréversibles.
Alors, Régis Janté, des réformes indispensables, Julien Torres l'a rappelé, dans un pays, l'Ouzbékistan, qui est un pays totalement enclavé, il y avait donc urgence et nécessité. Je veux dire, dans quel état le président Mirziyoyev a-t-il trouvé l'Ouzbékistan quand il en a pris les rênes?
Effectivement, Julien Torres a raison de souligner l'ampleur de ces réformes et la profondeur de ces réformes. Il faut quand même voir que c'est un pays qui était complètement fermé. On comparait quasiment à la Corée du Nord du point de vue de la nature du régime. Et tout d'un coup, on se retrouve avec de la presse qui fait son travail, réformes religieuses, convertibilité du soum, abolissement quasiment du protectionnisme, qui n'est pas simplement une mesure économique, qui a une incidence majeure sur la nature, enfin le fonctionnement politique du pays, avec les monopoles qui vont avec, etc. Je crois que ce qu'il essaie de faire, Monsieur Mirziyoyev, c'est un économiste, effectivement, comme Monsieur Armanov le soulignait, et que son logiciel, si j'ose dire, son mode de fonctionnement, c'est celui-là. Alors, certains disent qu'il l'a fait parce que l'économie était sur le point de s'effondrer. On n'en est pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, ça a toujours été un homme de l'économie, et il veut remettre le pays, en quelque sorte, à sa main. Et donc, il agit en économie, si vous voulez. Donc, son moteur, c'est de faire que l'économie soit plus puissante dans un des documents stratégiques, on va dire, de planification stratégique du pays. Il explique que si la population sera plus riche, alors le pays n'en sera que plus puissant. Et j'ai l'impression que là, on a véritablement la base sur laquelle il s'appuie.
Julien Torres.
Oui, je voulais juste préciser que il y a effectivement des réformes de très grande ampleur qui sont menées aujourd'hui, mais que ces réformes n'arrivent pas de nulle part. Et qu'en particulier, dans les dernières années de la présidence de Karimov, dans toutes les institutions d'État, dans les ministères, etc., il y avait eu toute une série de documents qui annonçaient en fait ces réformes et qui n'avaient pas été mises en œuvre. Mais les réflexions étaient déjà bien avancées.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, on parle beaucoup d'un modèle de la perestroïka pour l'Ouzbékistan, perestroïka de Gorbatchev. Ahmed Ramanov, ça vous paraît être le modèle suivi par le président ouzbek?
Je dirais pas comme ça, parce que je pense que perestroïka, c'était surtout changement de système politique, alors que chez nous, le système politique, je pense qu'il va perdurer. Puis c'est surtout l'économie qui est en jeu, comme on a dit plusieurs fois, parce que l'économie comme un instrument politique, on peut dire, pour les Ouzbeks, car on n'en est pas encore dans la politisation des Ouzbeks. On est vraiment pour amélioration de la vie, pour vivre décemment, pour avoir une capacité économique. Bien sûr, il y a un côté un peu glasnost, ça veut dire on dit tous les problèmes, on cache rien, on fait toujours critique. Donc c'était un mot que le président lui-même il a annoncé. Il a dit à partir de maintenant on critique, on cache pas les choses, on les critique. C'est ça qui va nous amener aux solutions peut-être. Donc c'est un peu glasnost, mais je dirais pas perestroïka parce que c'est pas un changement de régime, on peut dire, de politique.
On a par exemple des cahiers de cahiers de doléances, ce qui rappelle la Révolution française, si je puis dire, sauf que maintenant ça se passe online, y compris en Ouzbékistan, où on a eu plus autour de 2 millions de requêtes, de doléances faites par les Ouzbeks, alors que jusqu'à présent il n'était pas question de parler, c'était dangereux, et où les gens se plaignent du gouverneur local corrompu, de l'adduction de d'eau qui ne fonctionne pas, et de choses comme ça. Donc les choses sont mises sur la place publique, sont dites effectivement.
Oui. Julien Torres.
Oui, et ce portail présidentiel véritablement modifie profondément le rapport de la population à l'État et au président, parce que c'est le portail du président, c'est président.us, je crois, et on s'adresse directement au président. Et ce qui est intéressant, c'est que les adresses qui sont faites au président, donc formellement, on est bien d'accord, c'est d'ailleurs très habile du point de vue de Mirziyoyev et de sa construction, de sa popularité, ces adresses appellent souvent des réponses. Des fois positives, des fois négatives, sur la résolution de problèmes qui peuvent être très concrets, mais appellent des réponses. Et du coup, on a là un changement quand même assez fondamental du rapport entretenu entre l'État et la population.
Un exemple, Julien Torres.
Mais écoutez, lorsque, vous avez des difficultés à accéder à tel ou tel service, une école, sur le prix de l'université, etc., vous pouvez faire une requête. Dire que pour vous c'est trop cher, que c'est pas normal, que ça fonctionne mal, etc. Et vous pouvez avoir une réponse de l'administration en question qui vous dit, qui vous explique pourquoi le prix est de tel niveau et qui vous dit que telle solution pourrait être mise en œuvre pour vous permettre quand même d'accéder à ce service. Ou bien il y a des difficultés dans tel ou tel district avec telle personne. Eh bien vous pouvez faire une requête et là on vous explique le problème est vraiment trop aigu, la personne peut être changée, etc., etc. Donc il y a vraiment des changements ici qui sont concrets dans la vie quotidienne des gens, ce qui est tout à fait important. Juste une chose concernant l'ampleur des réformes économiques, et notamment je voudrais revenir sur la question agricole qu'on a abordée tout à l'heure avec la question de l'achat de machines-outils. Il faut bien voir aussi que ces réformes comportent des risques, et notamment s'agissant de l'Ouzbékistan, comme en gros la moitié de la population est encore agricole, la question de la mécanisation de l'agriculture pose celle de l'embauche de la main-d'œuvre, parce qu'on sait très bien que lorsque l'on procède à la mécanisation de l'agriculture, lorsqu'on achète des tracteurs, des machines, etc., agricoles, on réduit la main-d'œuvre considérablement. Et là, il y a un enjeu qui sera très important pour l'Ouzbékistan, au-delà même de la vitesse à laquelle sont menées les réformes, qui épuisent d'une certaine façon au moins les personnels des administrations.
Alors sur ces limites et sur les risques que comportent ces réformes, Ahmed Rahmanov, vous avez votre opinion?
Bien sûr, mais d'abord je voulais m'arrêter ce qu'il a dit Monsieur Torres, donc concernant les mains d'or et côté social de la vie de paysans en Ouzbékistan. Oui, bien sûr, on va réduire les mains d'or, mais on va avoir peut-être un progrès économique, parce que ces mains d'œuvre, il y en a beaucoup, mais ça apporte pas vraiment un potentiel économique qui fait développer le pays. Et maintenant, on passe à une autre échelle et on va trouver une autre solution pour les gens qui seront peut-être écartés de secteur agricole à cause de développement de machinerie. Alors, pour le côté limite, moi, je pense qu'on va un peu trop vite dans les réformes économiques. On décide trop vite sur les trop grand projet, donc alors qu'il faut bien se poser, réfléchir et de compter de tous les facteurs qui peuvent influencer à ces changements. Donc par exemple, il y a des projets, des milliers d'hectares des serres, des vergers qui sont décidés en une journée avec qui et comment on va travailler, alors que on peut dire l'agriculture c'est des choses vivantes, c'est pas des machineries qui va travailler tout seul, donc il faut prendre en compte tous ces facteurs là, je pense.
Est-ce qu'il est pris par le temps ou ils se sont pris par le temps, le président ouzbek, Julien Torres, Régis Janté, dans cette Ahmed Rahmanov parle de précipitation presque, il y a une urgence. Régis Janté.
On n'a pas l'impression qu'il y a véritablement une urgence. Il tient bien le pays. Il a réussi à prendre en main le pouvoir, notamment en écartant ce qui était un véritable état dans l'état, qui était les services de renseignement, avec un chef qu'il a mis un an à renverser, ce qui s'est fait au début de l'année 2018. Donc on n'a pas l'impression, mais c'est un homme pressé, effectivement. Il est décrit comme quelqu'un d'assez impulsif, qui veut obtenir des résultats. C'est peut-être pas la situation elle-même qui requiert cette urgence.
Julien Torres.
Non, je crois qu'il y a effectivement des réformes qui sont engagées et qui vont très vite. Mais je suis d'accord avec vous, je ne suis pas sûr qu'il y ait une urgence particulière. Je crois en revanche qu'il y a un agenda général qui rende les réformes assez irréversibles. Et ce qui est, je crois, aussi très impressionnant, c'est l'extrême diversité des réformes menées. On a parlé de l'agriculture, on a parlé de la politique étrangère, on pourrait parler de la question religieuse. Et elle se voit partout. Et en tant que géographe, moi, je les vois dans le paysage. Mmh. Et notamment avec la construction de mosquées partout, du point de vue religieux, qui accompagne en fait une politique religieuse qui a une inflexion en faveur d'une plus grande tolérance religieuse, par exemple.
On reviendra, si vous le voulez bien, dans la deuxième partie de l'émission, sur la question religieuse et sur les réformes en politique étrangère. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Julien Torres, Ahmed Ramanov et Régis Janté dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Ouzbékistan. Nous retrouvons nos invités, Julien Torres, géographe chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l'Asie centrale, Ahmed Ramanov, consultant, membre de l'équipe Novastan, média francophone sur l'Asie centrale, et Régis Janté, journaliste, correspondant de RFI dans le Caucase et l'Asie centrale. On a évoqué dans la première partie de l'émission donc ces réformes entreprises par le président Mirziyoyev, qui est au pouvoir à Tashkent depuis décembre 2016, date de son élection. Des réformes tous azimuts, on l'a dit. Quelques mots peut-être pour revenir sur la question agricole et signaler que l'eau, c'est une question vitale en Ouzbékistan, avec une mer d'Aral qui est quasiment à sec, l'Amoudaria et le Sirdaria qui n'en sont pas loin, d'où aussi peut-être cette volonté des autorités ouzbèques de sortir de la monoculture du coton qui est très demandeuse en eau pour d'autres choses. Ahmed Ramanov.
Oui, effectivement, l'eau devient plus en plus difficile en Asie centrale en soi, parce qu'il y a les changements climatiques qui remontent les températures, etc. Il y a l'agriculture extensive, c'est ce qu'on appelle. Et je pense que dans le défi de Mirziyayev au niveau social, parce que l'eau, ça concerne le socium aussi, donc le défi prochain, ce sera la réforme des systèmes d'irrigation en Ouzbékistan, de le moderniser, de le rendre plus économique. Parce qu'avec les constructions des barrages au Tadjikistan et en Kyrgyzstan, donc on a dit, ok, vous pouvez construire parce qu'on va avoir des bonnes relations, mais nous, on va vite confronter de pénurie de l'eau. Donc la question de réforme et irrigation, je pense que ça va se poser très vite devant le président.
Julien Torres, oui.
Oui, non, juste une petite précision. Je crois que les transformations de l'agriculture, au-delà de la nature et de la structure des exploitations agricoles, ont été engagées avant l'arrivée de Mirziyoyev. En particulier, la monoculture du coton n'en est plus vraiment une depuis déjà assez longtemps, puisqu'on a eu l'augmentation de la production de céréales. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'État ouzbékistanais cherche à développer la production de fruits et légumes et cherche à développer les exportations. Et toute une filière, en fait, de production, logistique et de transformation aussi, des fruits et légumes, est en train de se développer. Et là, on a véritablement un basculement dans la conception même de la production agricole. Est-ce que le développement de la céréaliculture, le développement de la production de fruits et légumes entraînera nécessairement une réduction de la consommation d'eau par l'agriculture? Pas nécessairement, parce que vous avez des cultures céréalières qui exigent à peu près autant d'eau, si ce n'est plus, par exemple le riz, que le coton.
La question religieuse, vous l'évoquiez dans la fin de la première partie, Julien Torres, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de l'islam en Ouzbékistan? L'Ouzbékistan qui a vu émerger dans les années 90 un mouvement islamiste radical. Quelques mots sur l'islam en Ouzbékistan et on évoquera la question d'un éventuel ou possible foyer islamiste en Asie centrale. Régis Janté.
Oui, ça c'est vraiment une question clé. Et la dictature qu'a construit Karimov était notamment faite pour contrôler la montée de l'islamisme, qui lui-même était peut-être, en partie du moins, une réaction à la dictature de Karimov. Sachant que ça s'appuie sur une longue histoire de révolte, d'opposition, de résistance de la population, notamment dans une vallée comme la fameuse vallée du Fergana, très peuplée, où on a une résistance au pouvoir colonial, par exemple, ou bien locale de la République d'Ouzbékistan, à travers une mobilisation de l'islam. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et ça a donné lieu à tout un maillage de la société à travers ce qu'on appelle les mahallas, qui sont des petits quartiers de quelques centaines ou milliers d'habitants, et qui sont véritablement sous la loupe des services de renseignement et de la police pour identifier immédiatement qui devient islamiste, etc. Avec une politique extrêmement répressive, ça c'est toutes les années Karimov, on parle de au moins 10 000 prisonniers religieux, qui souvent en fait ont été emprisonné pour simplement avoir eu la barbe un peu longue, mais c'était pas des gens qui étaient dans l'islamisme, si vous voulez, dans la radicalité, mais le niveau a été abaissé très bas pour véritablement contrôler l'islam. Et cela, Mirziyoyev veut absolument le changer, c'est-à-dire qu'il est en train de changer complètement l'ambiance répressive qui règne sur le pays. Lui-même et le pouvoir, donc, aujourd'hui, encourage par exemple des concours de lecture du Coran en public, à la télévision même, je crois, parfois. Donc c'est véritablement une manière, en fait, de reprendre l'islam sous la coupe de l'État, notamment en s'appuyant sur l'islam hanafite, qui est l'islam donc de l'Asie centrale, pour le dire très très simplement, je suis pas un spécialiste, mais qui va mettre davantage l'accent sur l'interprétation du Coran et sur la loi que sur la charia elle-même, si vous voulez, et plus aussi sur la spiritualité. Donc il essaie de reprendre, de mettre en avant cet islam-là, qui se veut plus modéré, et de le prendre sous la coupe de l'État, et non pas d'être un État répressif à l'égard de l'islam. Et ça, c'est très important, avec l'ouverture de centres d'enseignement de la théologie, avec aussi des médias qui parfois sont proches ou qui sont la propriété de gens qui affichent une morale musulmane. Donc c'est un changement de ton radical. On sent que c'est une question très délicate. Aucun prisonnier religieux, je crois, jusqu'à présent n'a été libéré. En revanche, il y avait des listes qui comportaient 18 000 noms de gens qui étaient considérés comme étant potentiellement islamistes, etc. Et ces listes ont été quasiment détruites. Il reste à peu près 1 000 personnes seulement sur ces listes aujourd'hui.
Julien Torres.
Oui, je voulais juste préciser que l'État ouzbékistanais est un État laïque et que même s'il reste encore que des populations russophones, l'écrasante majorité de la population de l'Ouzbékistan est musulmane. Et que l'État dispose d'institutions qui sont directement héritées de l'apartheid soviétique, et en particulier d'une direction spirituelle des musulmans d'Ouzbékistan, et qu'il mène donc une politique qui vise à renforcer la connaissance, les connaissances religieuses, et l'idée telle qu'elle est affirmée par les représentants de l'État, c'est de considérer que une bonne connaissance, en fait, des questions religieuses et de l'islam permet de se prémunir de toute forme de radicalisme et en particulier du terrorisme. Et là, je crois qu'il y a véritablement, dans l'idée qui est avancée par les autorités, de faire le lien entre la connaissance religieuse et la lutte contre la radicalisation.
Alors, éviter la radicalisation, je me tourne vers vous, Ahmed Ramanos. Régis Gentil évoquait ambiance répressive en Ouzbékistan. Est-ce qu'il y a finalement un lien entre cette répression et ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est-à-dire voir plusieurs kamikazes issus d'Ouzbékistan être impliqués dans des attentats, notamment en Turquie, aux États-Unis en Suède, à Saint-Pétersbourg, en Russie.
Oui, en fait, on peut dire tout ce qu'on veut sur le régime Karimov, sur sa cruauté, mais il faut se rappeler que la question des islamistes en Ouzbékistan, c'était pas juste une excuse. Donc, il y avait une réelle question des islamistes qui est issue du milieu ouzbek, qui est très connue pour leur combativité en Afghanistan, mais maintenant en Syrie. Donc, les Ouzbeks qui vont au-delà des combats, qui devient kamikaze, etc. Donc oui, il y a un vrai problème d'islamisme influencé de l'extérieur du pays, ça c'est pas niable. Après, quel est l'islamisme ouzbek, où est-ce qu'il se développe? Je pense que c'est pas en Ouzbékistan, c'est plus dans les milieux migratoires, soit en Russie, en Turquie, même au Kazakhstan, parce que tous les islamistes que le régime Karimov a poursuivi sont installés dans ces pays-là à peu près, et qui continuent leur propagande, leur, on peut dire, recrutement, donc pour vers la Syrie, etc. Et puis tous les kamikazes qu'on a eus dernièrement, tous les terroristes qu'on a eu dernièrement, ils sont à peu près issus du milieu migratoire, ça veut dire ils sont radicalisés en Ouzbékistan, souvent. Ils sont radicalisés soit au Kyrgyzstan, soit en Russie, soit en Turquie, surtout en Turquie. Donc je pense que Mirziyoyev, il est conscient de ça. Il donne une liberté au milieu religieux, mais il sait que le radicalisme, il existe. Et récemment, le nouveau chef de service secret, il s'est rappelé pendant son discours qu'il faut porter porter des barbes, mais il faut pas aller au-delà. Ça veut dire, il faut le porter comme un bon musulman ouzbek, mais sous le barbe, on peut pas cacher cette radicalité latente, on peut dire. Donc, je pense que l'État, il est conscient, mais en même temps, il est conscient que l'islam est, en fait, on peut dire, l'islam est devenu une idéologie qui est émergée avec l'opposition à l'État. Ça veut dire, quand on est opposant, on devient souvent islamiste. Après, il y a des questions aussi politiques, parce que nous, on n'est pas un pays européen. On n'a pas gauche, droite, etc. On a plus côté social. On a laïcité, on peut dire, qui est héritée de l'Union soviétique. Après, il y a l'opposition. C'est le monde un peu associé à l'islam et au, peut-être au pan-turquisme, parfois, donc à la nationalité. Donc, toutes ces questions-là, c'est très complexe pour le Mirziaïev, il est obligé de donner une place à la religion, mais je pense que des limites, ils sont pas énormes. Donc ça veut dire on peut être musulman maintenant, on peut porter les barbes, on peut aller à la mosquée en toute liberté, mais je pense qu'il y a une limite très vite après. Au-delà des questions juste religion, et si on passe à l'idéologie, je pense que l'État, il sera aussi réactif que l'époque Karimov.
Alors, pour aller plus loin, Julien Torres, Régis Janté, vous l'avez rappelé précédemment, l'Ouzbékistan a accueilli une conférence sur l'Afghanistan en mars dernier, il y a donc quelques semaines. L'Afghanistan, une clé de sécurité pour l'Ouzbékistan?
Oui, c'est une question effectivement importante. Il y a plusieurs dimensions dans la question afghane pour l'Ouzbékistan, et celle de la sécurité l'est effectivement, d'autant qu'on a pu voir ces derniers mois une sorte de résurgence de l'islamisme en Afghanistan, avec une sorte de déplacement de Daesh après les défaites de Daesh en Syrie et en Irak, et vers l'Afghanistan, puis une partie des talibans qui semble-t-il se seraient placés sous l'autorité de Daesh. Donc on a une résurgence comme ça de l'activité terroriste en Afghanistan, donc c'est effectivement important, d'autant que historiquement, notamment ce mouvement islamique d'Ouzbékistan dans les années 90 qui avait se réfugié en Afghanistan en s'en servant comme une terre, une base en quelque sorte, une arrière-base pour pouvoir mieux défier le régime de Karimov.
Et qui aujourd'hui se serait déplacé à la frontière afghano-pakistanaise, Julien Torres?
Alors, l'activité des groupes combattants djihadistes en Afghanistan est aussi à proximité de la frontière d'Ouzbékistan, d'ailleurs, et du Tadjikistan. Il y a vraiment une activité au nord. Mais globalement, je crois quand même qu'il faut être assez mesuré avec cette menace islamiste sur l'Ouzbékistan et sur l'Asie centrale en général. D'une part, parce qu'il ne faut pas surévaluer le nombre de combattants islamistes originaires d'Asie centrale. On estime à quelques milliers. Pour toute la région, le nombre de combattants, et quand on rapporte le nombre de combattants islamistes djihadistes à la population musulmane d'Asie centrale, autour de 70 millions d'habitants, on voit bien que le rapport n'est pas forcément plus élevé que dans d'autres populations musulmanes. Donc il faut pas les... Et par ailleurs, leur nombre peut créer des difficultés, mais pas forcément conduire à un renversement du pouvoir. Je crois que là, il y a vraiment une marge assez importante, d'autant plus que les réformes qu'on a évoquées tout à l'heure sont très favorablement accueillies par la population d'Ouzbékistan. Et là, on a véritablement, je crois, le terreau d'une sécurité pour l'Ouzbékistan. Il faut ajouter, s'agissant de l'islam en Ouzbékistan, qu'il y a des formes qui sont très, très, très différente du salafisme, qui est souvent l'idéologie portée par ces groupes terroristes, et en particulier avec le soufisme, avec le culte des saints, qui sont des pratiques quotidiennes pour une grande partie des musulmans d'Ouzbékistan. Et du coup, le discours salafiste arrive à pénétrer dans certaines franges de la population, mais l'écrasante majorité de la population n'adhère pas à cette idéologie. Et du coup, il y a certes une situation en Afghanistan qui a plutôt tendance à se dégrader et qui est depuis longtemps est difficile. Mais je crois qu'il faut vraiment appréhender l'Ouzbékistan, d'ailleurs comme tous les pays centra-asiatiques, du point de vue aussi de ce qui s'y passe à l'intérieur. Et ça revient à toute la question de savoir dans quelle mesure ces mouvements, y compris le mouvement islamique d'Ouzbékistan, sont des mouvements entre guillemets importés ou pas. Et là, il y a un débat. En gros, les pays centra-asiatiques, les États, et notamment l'État ouzbékistanais, disaient « c'est importé », même si ce sont effectivement des acteurs locaux, et les pays occidentaux disaient « c'est la conséquence des régimes autoritaires ». Juste une dernière remarque, Il y a 130, 140, 150 kilomètres de frontière commune entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan. C'est une frontière qui est militarisée, qui est très largement surveillée. Et c'est pas une frontière que des groupes islamistes peuvent passer comme ça facilement. Et quand les talibans étaient face à l'État ouzbékistanais entre 1990-96 et 2001, il n'y avait pas d'incursion par cette frontière de groupes islamistes. Des groupes islamistes qui étaient intervenus en Ouzbékistan à cette période arrivaient par d'autres chemins, notamment depuis le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Donc c'est pas forcément, même en termes strictement opérationnels, par là que pourrait se passer une déstabilisation. Si déstabilisation il y avait.
Quelques mots pour resituer l'Ouzbékistan dans la géopolitique mondiale. On en a parlé dans la première partie de l'émission, la récente visite du président ouzbek aux États-Unis. La relation avec la Russie, c'est une ex-république soviétique. Pratiquement 2 millions d'Ouzbeks sont aujourd'hui installés en Russie. La question de la Chine avec la route de la soie. On peut rappeler aussi que l'Ouzbékistan, on parlait d'isolement, mais il fait tout de même partie de l'organisation du traité de sécurité collective et de l'organisation de coopération de Shanghai. Quelques mots pour finir avec la relation de l'Ouzbékistan avec ses puissances. On a beaucoup parlé des États-Unis. Quelques mots sur Moscou et sur Pékin, Régis Janté.
Pour Moscou, c'est le jeu habituel de la plupart des ex-républiques soviétiques en Asie centrale, dans le Caucase, c'est d'essayer de contenir l'influence de Moscou tout en essayant de garder une bonne relation. C'est très important. Lorsque vous avez 2 millions de migrants du travail qui vivent en Russie, ça devient aussi évidemment une question politique puisque c'est un levier dans les mains de Moscou éventuellement. Donc Merzioyev essaie, ce qu'on me racontait à Tachkent récemment, c'est qu'il essaie d'entretenir une bonne relation avec Moscou. Il veut absolument pas qu'elle se dégrade. En même temps, on contient Moscou en refusant notamment d'entrer dans l'Union Eurasiatique, par exemple. Et la Chine, par exemple, est aussi un contrepoint avec aussi cet autre avantage, c'est que la Chine a beaucoup d'argent. Donc, dans le cadre de ces routes de la soie, Tachkent entend profiter de cette manne, en quelque sorte, pour lancer quelques projets d'investissement qui aideront le pays à se développer et prendre leur place dans ces routes de la soie. Donc, c'est un vrai vecteur de développement économique qui, encore une fois, est le principal levier qu'utilise Mirziyoyev pour asseoir son pouvoir.
Et Ahmed Ramanov, l'Union européenne qui n'est pas totalement absente.
Qui n'est pas totalement absent, mais beaucoup absent quand même, en Ouzbékistan surtout, parce que avec toutes ces évolutions politiques avant Mirziyoyev, l'Union européenne a été écartée petit à petit en termes économiques et politiques surtout, parce que c'est l'Union européenne, ça va avec le droit de l'homme, avec démocratisation des institutions civiles. Donc c'était un peu difficile. Mais maintenant, je voulais juste parler de la géographie de l'Ouzbékistan, qui est tout à fait essentielle dans son géopolitique et dans son être, on peut dire. Par exemple, la question afghane, c'est une question de sécurité, mais c'est surtout une question économique pour l'Ouzbékistan, parce que nous sommes bloqués au sud avec tous les pays, notamment Turkménistan, qui est une dictature, il faut le dire, une dictature, mais très fermée. Donc, on ne peut pas le franchir facilement. Pareil, en Afghanistan, il y a des questions sécuritaires, alors que pour nous, la marché indienne et pakistanais et iranienne, c'est essentiel, ça peut être essentiel économiquement. Et pareil pour la Chine. La Chine, il est à côté, ok, mais après, il y a la Chine et la Chine. Ça veut dire la frontière chinoise avec nous, ça passe avec la région Xinjiang. Donc, c'est une région ouïghour, un peuple d'origine turcique d'Asie centrale, on peut dire musulmane. Donc, la Chine, il est à la fois, il veut des coopérations économiques, à la fois, il veut pas qu'il y ait une assimilation entre les populations ouzbèques ou kirghizes et kazakhs avec les ouïghours, parce que ça relève des questions des indépendantistes ouïghours. Donc, c'est très délicat, l'investissement chinois en Asie centrale. C'est du loin, ça veut dire c'est du Pékin direct en Asie centrale et peu avec son frontière ouïghour.
Julien Torres, en guise de conclusion.
Écoutez, je crois que pour revenir à la question initiale des relations avec les différentes puissances, je crois que l'Ouzbékistan est en train de développer une politique qui finalement est assez comparable à celle du Kazakhstan, en essayant d'approfondir des relations avec les différents acteurs politiques internationaux, mondiaux, et en essayant de se positionner, pour revenir à la question de la souveraineté, de façon assez équilibrée, sans forcément choisir l'un plutôt que l'autre. Après, il y a des réalités économiques et géographiques qui s'imposent, et il est évident qu'en termes économiques, la Chine, la Russie sont des partenaires beaucoup plus importants que l'ensemble des pays européens.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Julien Torres, géographe chargé de recherche au CNRS. Ahmed Ramanov, consultant, membre de l'équipe Novastan, média francophone sur l'Asie centrale. Et Régis Janté, journaliste et correspondant de RFI dans le Caucase et en Asie centrale. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée au cinéma comme vecteur de soft power des puissances, à commencer par les États-Unis.